Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, Monsieur, bonjour. Avec Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l'époque napoléonienne, nous poursuivons notre série sur la campagne de Russie. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux conditions, comme nous allons le voir, effroyables, de la retraite. Je rappelle, Napoléon fit son entrée dans Moscou le 15 septembre. C'est là qu'il devait négocier la paix avec Alexandre. C'est là aussi qu'il comptait ressourcer son armée. Après plus d'un mois passé à Moscou, sans aucun résultat, Napoléon décide de quitter la ville pour ramener son armée, sinon en France, sur des terres moins hostiles. La retraite prend aussitôt l'allure d'un sauve-qui-peut qui, avec l'entrée en scène du général Hiver, se mue en désastre. Jacques-Olivier Boudon, bonjour.
Bonjour.
J'indique à nos auditeurs que vous avez publié deux ouvrages sur la campagne de Russie. Le premier chez Armand Collin, avec pour titre « Napoléon et la campagne de Russie ». Le second, « Lettres de la campagne de Russie » aux éditions Pierre de Taillac, est un recueil des lettres de nombreux acteurs de cette campagne. Mais entrons donc dans le vif du sujet. Napoléon donc quitte Moscou le 19 octobre. Pourquoi Napoléon se décide-t-il à quitter Moscou et quel est son plan stratégique, s'il en a un d'ailleurs à ce moment-là?
Lorsque Napoléon quitte Moscou le 19 octobre, en fait, il veut provoquer une nouvelle fois une bataille contre Koutouzov. Et donc, il va se diriger vers le sud où se trouve Koutouzov, qui a entreposé ses armées, si je puis dire, depuis la défaite de la Moscova, mais qui s'est replié en assez bon ordre et qui a renforcé ses troupes parce qu'il a bénéficié de renforts venus de l'Est et qu'il s'est réarmé. Donc Napoléon a compris à ce moment-là que s'il voulait forcer la décision, puisque le tsar refuse toute idée de négociation, il fallait qu'il batte à nouveau Koutouzov. Il va donc quitter Moscou, non sans laisser sur place au Kremlin le maréchal Mortier, qui est chargé de garder la ville. On ne sait jamais. Finalement, la quittera quelques jours plus tard parce que Napoléon ne parvient pas à forcer l'armée de Koutouzov. Et donc, pour ne pas prendre de risques, il décide de se replier en direction de l'ouest. On ne sait pas encore trop jusqu'où. Il écrit à Marie-Louise à ce moment-là, vers la fin octobre, qu'il envisage de prendre ses quartiers en Pologne. Mais on ne sait pas véritablement quelle sera la destination finale de ce que d'ailleurs Napoléon se refuse à appeler une retraite. Lui n'emploie jamais le terme.
Et comment s'effectue ce départ de la Grande Armée de Moscou?
Alors c'est un départ tout à fait étonnant parce que les soldats, pendant le mois qu'ils ont passé à Moscou ou dans les environs de Moscou, ont beaucoup ramassé d'objets. On sait qu'après l'incendie de la ville, on a laissé la ville au pillage et donc les soldats, les officiers même, se sont emparés de très nombreuses richesses qu'ils ont amassées sur tout ce qu'ils ont pu trouver, de véhicules, de voitures, de chevaux bien sûr. Et on a cette armée d'environ 100 000 hommes accompagnée de toutes ces voitures, des milliers de voitures qui vont la suivre, qui vont d'ailleurs encombrer les routes au grand dam de Napoléon, qui ne cesse de demander à ce qu'on brûle ses bagages et que l'on libère, que l'on permette à la route d'être beaucoup plus fluide. Donc c'est un spectacle impressionnant qui a été décrit par la plupart des observateurs, un spectacle très bigarré. Évidemment, il y a aussi des civils parmi eux, puisqu'il y a la plupart des Français qui séjournaient à Moscou avant l'arrivée de la Grande Armée, qui n'ont aucune envie d'y rester parce qu'ils savent qu'ils risquent de subir des représailles de la part des Russes lorsque ceux-ci vont rentrer dans la ville.
Des civils qui vont avoir un rôle assez néfaste pour la Grande Armée.
Ces civils encombrent, il y a des femmes, il y a même des femmes enceintes, il y a des hommes, des acteurs, des négociants. Donc effectivement, ils encombrent, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas prévus. Il faut aussi prévoir leur ravitaillement. Ils vont se trouver d'ailleurs parmi les premières victimes du froid, de la faim, parce qu'ils ne sont pas du tout équipés pour faire face à toutes ces conditions.
Et dans quel état est l'armée? S'est-elle vraiment ressourcée à Moscou?
Absolument pas. Une des raisons d'ailleurs des problèmes que va rencontrer cette armée pendant la retraite, c'est qu'elle est très affaiblie. Elle est affaiblie parce qu'elle a beaucoup marché depuis la fin du mois de juin. Elle a déjà subi des conditions climatiques très défavorables au cours de l'été, des pluies diluviennes, une chaleur écrasante, des problèmes de maladies, de blessures. Les hôpitaux sont remplis. Il y a près de 60 000 blessés, malades dans les hôpitaux tout au long du parcours. Donc c'est une armée qui est très affaiblie. Et cette armée affaiblie, finalement, plus les soldats sont faibles, plus ils seront les premières victimes du froid, de la faim, des mauvaises conditions en tout genre.
Alors c'est Murat qui est chargé d'ouvrir le chemin, si je peux dire. Il est aussitôt attaqué finalement par les troupes de Koutouzov. Les Russes sont repoussés, mais cette première bataille avec l'armée de Koutouzov, que révèle-t-elle ?
Alors, elle révèle que Koutouzov s'est réarmé, qu'il a retrouvé une certaine puissance de feu, qu'il est prêt à combattre les troupes françaises, mais en même temps, on s'aperçoit que Koutouzov se défend, mais ne repasse pas à l'offensive. C'est-à-dire que tout au long de la retraite, c'est une caractéristique, Koutouzov laisse malgré tout l'armée française se replier. Parce que les Russes, et on le voit à travers les correspondances des généraux russes, les Russes craignent toujours cette armée. D'ailleurs, lorsqu'ils l'attaquent, en général, ils sont repoussés. Quand l'armée est en bon ordre, que ce soit sous les ordres de Ney ou d'autres, les Russes sont repoussés. Donc ils ont toujours cette crainte, et c'est ce qui explique que jusqu'à la Bérézina, finalement, ils ne procéderont pas à une attaque qui pourrait véritablement emporter la décision et faire que l'armée soit anéantie. Alors elle ne sera pas anéantie, et ses chefs ne seront pas faits prisonniers.
Mais les Russes vont quand même multiplier les attaques envers la Grande Armée. Cette première bataille va finalement barrer la route de Napoléon.
Oui, alors du coup, Napoléon est obligé de prendre la décision de revenir plus vers le nord et de reprendre la route initiale, c'est-à-dire la route qu'il a prise à l'aller, parce que cette route, d'abord, il la connaît, ce qui est un élément important, parce qu'on oublie toujours que la Russie est un immense espace très mal connu, et Napoléon n'a pas voulu, en allant vers le sud, ce qu'il avait initialement prévu, pas voulu s'engager dans des territoires qu'il connaissait mal. Alors, il avait bien préparé cette route jusqu'à Smolensk en envoyant des troupes, notamment le général Baraguédillier qui est envoyé à Elnia, c'est-à-dire sur la route de Kalouga à Smolensk. Mais ce choix, finalement, il ne le poursuit pas. Il va revenir vers le nord-ouest, reprendre la route du départ avec un objectif à ce moment-là, parvenir à Smolensk. Smolensk qui doit être une étape dans la retraite de la Grande Armée et où on espère trouver des vivres, de l'approvisionnement pour permettre à cette armée de se ressourcer. Ce qui a été prévu, il y a des ordres ont été donnés, les provisions sont là. Le problème, c'est que lorsque l'armée arrive, il n'y a aucun ordre pour la distribution de ces vivres et que par ailleurs, l'armée est encombrée de toute une série de traînards, de soldats qui ne sont plus encadrés, qui vont piller les réserves, si bien que ce qui devait être une halte dans la retraite s'avère être une étape supplémentaire dans le calvaire subi par ces soldats.
Entre en scène à ce moment-là déjà celui qu'on appellera le général hiver.
Le froid va s'installer en effet, et un froid glacial. On estime que c'est à partir du 6 novembre 1812 que le froid tombe véritablement en dessous de zéro. On va atteindre un peu plus tard les moins 30 degrés, c'est-à-dire un froid exceptionnel, même pour la Russie. Il fait froid en Russie en hiver, mais la caractéristique de l'année 1812, c'est que les températures sont tombées très bas et très tôt. On aurait pu espérer, en partant de Moscou vers le 20 octobre, arriver à la mi-novembre à peu près, plus à l'ouest, à proximité de la frontière. Ça n'est pas du tout le cas. Le froid non seulement s'installe, mais il va ralentir la marche des soldats. Et plus on va vers le mois de décembre, plus aussi on s'approche du solstice d'hiver, c'est-à-dire des jours très courts, puisqu'on est au nord. Et autant les journées étaient très longues en juin lorsque les soldats sont partis, autant elles sont très courtes en novembre-décembre, ce qui ralentit aussi la progression de ces troupes.
Alors l'hécatombe commence avec ce froid ?
Oui, on a des témoignages qui, dès le début novembre, on a des témoins qui voient des soldats tomber de froid, tomber de faim, s'affaler complètement sur un sol qui devient un sol blanc, enneigé. Et ces scènes se multiplient. Elles ont d'ailleurs été illustrées par des dessinateurs, des peintres célèbres, comme Raffet par exemple, où on voit ces visages complètement frigorifiés, sorte de glaçons au milieu de la plaine russe. Eh bien ces images, on les retrouve dans tous les témoignages des combattants de l'époque, de tous les survivants. Ces soldats qui tombent les uns après les autres, les chevaux aussi, il ne faut pas oublier les chevaux qui vont succomber au froid et au manque de fourrage, et ces chevaux d'ailleurs qui vont aussi d'une certaine manière sauver une partie des soldats, puisqu'on va se nourrir de viande de cheval, ce n'est pas inédit, mais ce sera un des moyens pour parvenir à survivre pour un certain nombre de ces hommes.
Au froid, donc, s'ajoute la faim, l'épuisement, donc les actes de barbarie se multiplient. On en a beaucoup parlé.
On assiste à des scènes d'anthropophagie. Alors c'est le degré extrême de cette avancée dans la barbarie. Barbarie qui est décrite, là aussi, par les témoins qui ont pris conscience que cette armée qui souvent avait été cette grande armée, cette armée napoléonienne qui souvent avait été présentée comme vecteur de civilisation. Au début de la campagne, on a tendance à opposer l'armée des 20 nations à une armée de barbares que serait l'armée des Russes. Et en réalité, il y a un retournement complet qui s'opère et qui est ressenti comme tel par les soldats, en tout cas par ceux qui écrivent, qui se rendent compte qu'il n'y a guère plus de solidarité, c'est le chacun pour soi, on va se dérober le peu de nourriture que l'on a, et on voit des scènes où des soldats qui parviennent à conserver, alors qui a un bout de chocolat, qui... Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui d'un soldat slovène qui s'appelle Pike, dont on a réédité les souvenirs en français récemment. Lui, il a trouvé un chat, il le tient contre lui et il le déchiquette jour après jour et il se nourrit pendant 6 jours de ces morceaux de chat dont on imagine dans quel état il pouvait être. Et il se cache, bien sûr, de l'ensemble des soldats qui sont autour de lui pour pouvoir manger tranquillement et ne pas se faire dépouiller. Mais ces scènes-là, on les voit se répéter à l'infini. Et c'est la même chose dès lors qu'on trouve un morceau de viande qu'on veut faire cuire. Il faut protéger sa marmite, il faut vraiment être extrêmement attentif à ce que des soldats, même en régimenté, ne viennent pas vous voler le peu que vous avez pu conserver.
Donc nous sommes à peu près à la mi-novembre, un peu avant. L'armée est à Smolensk, déjà fortement affaiblie, désorganisée. Et le pire reste à venir, c'est ce que nous verrons après une courte pause. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, nous sommes toujours en compagnie de Jacques-Olivier Boudon qui nous parle de la retraite de Russie. Nous avons laissé la Grande Armée à Smolensk. La prochaine étape est le passage du Niemen ou avant la Bérézina, qui est un des épisodes les plus connus et les plus dramatiques de cette retraite de Russie. Pouvez-vous, Jacques-Olivier Boudon, nous en rappeler les grandes lignes ?
La Bérézina, c'est une rivière qui va se dresser devant la Grande Armée vers le 25-26 novembre à peu près. C'est un obstacle apparemment infranchissable. La rivière, malgré le froid que l'on a évoqué, la rivière ne peut pas être traversée, elle n'est pas gelée complètement, elle mélange de l'eau bouillonnante, des morceaux de glace, donc l'eau évidemment est très froide, on ne peut pas la traverser à la nage, mais on ne peut pas non plus la traverser à pied, donc il faut passer par des ponts. Et les seuls ponts qui existent sont du côté de Borisov. Et évidemment, le pont en question va être détruit, pris par les Russes. Et donc, il faut trouver une autre solution. Et donc, Napoléon va, grâce à un stratagème et à des hommes qui sont allés en éclaireur, lancer des ponts. Ce sont les fameux ponts lancés par le général Eblé et ses pontonniers au cours du 25 novembre. Et ce sont ces trois ponts qui vont permettre de franchir à l'armée, la Bérézina. Le terme de Bérézina est resté synonyme, évidemment, de défaite, puisque dès lors qu'on veut parler d'une catastrophe, même sur le plan sportif, on parle de Bérézina. C'est un peu excessif parce que, de fait, une partie de l'armée a réussi à franchir l'obstacle, et en particulier les généraux, les maréchaux, la plupart d'entre eux, il y a eu quelques exceptions, mais sont passés. Napoléon lui-même s'en est tiré. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a énormément de soldats, plusieurs dizaines de milliers, et
les
notamment
traînards.
De traînards, qui n'ont pas pu franchir la rivière et qui ont donc été faits prisonniers par les Russes. Et ils vont ensuite alimenter ces cortèges de prisonniers qu'on va voir se diriger vers l'Est, vers la Sibérie notamment.
Alors après la Bérézina, que reste-t-il de la Grande Armée ? On a quitté Moscou avec 100 000 hommes. Combien sont-ils à avoir passé la Bérézina ?
Alors, en fait, il y a les 100 000 hommes qui ont à peu près qui sont partis de Moscou, mais il faut rappeler aussi que sur les environ 600 000 hommes, bon, les chiffres sont parfois contestés, mais il y a à peu près 450 000 hommes qui sont entrés en Russie en juin, puis il y en a environ 100 à 150 000 qui sont arrivés en renfort par la suite. Donc, tous n'ont pas disparu, évidemment, et ils sont pour beaucoup stationnés entre Moscou et la frontière. Et puis, il y a les troupes qui se trouvaient au nord-est, sous le commandement d'Oudinot, notamment, plus au nord, ceux de MacDonald, mais ceux-là n'interviendront pas au moment que nous évoquons. Il y a les troupes qui étaient stationnées au sud-ouest, hein, du côté de Minsk, et qui vont, elles aussi, revenir vers la Bérézina. C'est-à-dire qu'au moment de la Bérézina, on a plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui sont d'origines très diverses. Et un contraste d'ailleurs très saisissant entre ceux qui sont à peu près préservés, par exemple le corps d'Oudinot, et ceux qui viennent de Moscou, qui sont dans un état pitoyable. Et si vous me permettez, je vais juste vous lire deux lignes d'un témoignage d'un soldat qui appartient à un régiment suisse, donc du corps d'Oudinot, et qui décrit ceux qui arrivent de Moscou, je cite « Ce fut un spectacle lamentable qui s'offrit à nos yeux. Cette armée qui avait fait trembler l'Europe quelques mois plus tôt et qui avait été admirablement pourvue de tout était devenue méconnaissable. Il était presque impossible de reconnaître les uniformes. Les hommes étaient sans souliers et sans armes, leurs corps emmitouflés dans des fourrures, leurs visages horriblement amaigris, etc. Et le témoignage se poursuit, c'est tiré des mémoires du lieutenant Thomas Legler. Donc il y a ce contraste. Donc effectivement, on a à peu près 100 000 hommes à nouveau, mais quelques 30 à 40 000 seulement qui vont franchir la Bérézina, et ils seront encore beaucoup moins, quelques milliers seulement, quelques jours plus tard, enfin deux semaines plus tard, à franchir le Niémen.
Oui, parce qu'entre-temps, donc, les nouvelles circulent de plus en plus mal entre Napoléon et Paris, mais quand même, Napoléon apprend qu'à Paris, fin octobre, il y a eu une tentative de coup d'État contre le régime impérial.
Oui, il a appris début novembre qu'il y avait eu cette tentative donc, du général Mallet, qu'on avait tenté de le remplacer en faisant croire qu'il était mort en Russie. Ce qui d'ailleurs pouvait s'expliquer parce que les nouvelles arrivaient très difficilement, très lentement. C'est un choc pour lui qui commence à le faire réfléchir à un retour prématuré. Puis il y a un deuxième élément, c'est qu'à la veille du passage de la Bérézina, Napoléon a véritablement eu peur de ne pas pouvoir franchir la rivière et d'être fait prisonnier par les Russes. Donc lorsqu'il franchit la Bérézina, il se convainc qu'il doit rentrer plus tôt que le reste de l'armée. Il va donc abandonner l'armée avec un petit groupe de proches, dont Caulaincourt, qui va le suivre et raconter d'ailleurs les conversations que les deux hommes auront pendant le retour. Son objectif, c'est de rentrer le plus vite possible à Paris pour réorganiser une armée, car il a compris que l'armée de Russie était complètement défaite.
La grande armée qui reste connaît les mêmes difficultés, le froid s'aggrave, le ravitaillement est de plus en plus problématique, les attaques russes se multiplient, mais à cela s'ajoute le découragement d'être quitté par l'empereur.
Ce découragement est réel, s'y ajoute aussi le fait qu'on espérait trouver à nouveau du repos à Vilnius, à Vilna, mais c'est comme à Smolensk, c'est comme dans les principales villes qui ont été traversées, la désorganisation la plus complète et la menace des Russes, et en particulier cette menace des Cosaques qui sont toujours omniprésents, qui vont harceler les troupes, qui poussent l'armée française et les soldats qui restaient, qui avaient passé toute la campagne à Vilnius ou qui y étaient arrivés parce qu'il y avait eu des renforts réguliers, à repartir vers le Niémen. Et on a ces scènes, là encore, tout à fait connues, de ces hommes qui tombent, de ces chevaux qui ne parviennent pas à monter les côtes qui se présentent devant eux et qui vont s'affaisser, le reste des canons qui ne peuvent pas être traînés également par ces soldats. Donc ce sont des scènes véritablement d'apocalypse que l'on voit encore après le passage de Vilnius. Et à Vilnius même, on le sait, un grand nombre de soldats ont péri. On connaît l'épisode de la découverte de ces corps, plus de 3000 corps découverts en 2001 à Vilnius, qui ont d'ailleurs été analysés par des experts et qui d'ailleurs montrent que les soldats de la Grande Armée, paradoxalement, sont morts en bonne santé. Ils sont morts d'épuisement, de froid, de faim, mais ils n'ont pas de blessures caractéristiques. Et ce sont souvent, ce qui est très intéressant dans ces études, ce sont des hommes de grande taille, proportionnellement à la moyenne, ce qui laisse penser que les plus faibles, les plus petits, étaient morts bien avant.
Pour résumer, on peut considérer que fin décembre, début janvier, le territoire russe ne compte plus de soldats de la Grande Armée. Combien sont-ils de rescapés à ce moment-là ?
Alors, la question des pertes de la Grande Armée en Russie est une question complexe qui a beaucoup divisé les historiens, les témoins eux-mêmes, avec quand même un accord qui semble s'établir, que ce soit des sources russes ou françaises, peut considérer qu'un soldat sur deux de la Grande Armée est mort en Russie. Moi, j'estime qu'à peu près 150 à 200 000 sont morts pendant la retraite, évidemment lors des combats et au cours des mois de juin à décembre, c'est-à-dire pendant les 6 mois. Il faut y ajouter sans doute près de 100 000 prisonniers qui meurent également dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu pratiquement 200 000 hommes faits prisonniers et on peut dire qu'un sur deux n'est pas rentré. Donc au total, moi j'estime que sur 600 000 hommes qui ont participé de près ou de loin à la campagne, qui sont entrés en Russie ou qui ont été restés en Pologne ou en Prusse, pratiquement donc 300 000 ne sont pas revenus, sont morts. C'est à la fois beaucoup, c'est énorme, ça représente un effectif extraordinaire par rapport à des batailles. Si on compare une bataille comme Austerlitz, côté français, côté de la Grande Armée, bon, c'est vrai qu'il y a que 72 000 hommes engagés, mais c'est 1500 morts. Donc ça permet de voir l'hécatombe qu'a représenté la campagne de Russie.
Et malgré les atrocités de cette campagne, de cette retraite en particulier, la campagne de Russie reste, et vous le montrez très bien dans votre ouvrage, est très ancrée dans la mémoire nationale et reste un mythe. Pourquoi ?
La campagne de Russie reste un mythe parce que finalement, ce que l'on en sait, on le sait essentiellement par les survivants. Et finalement, ces survivants qui ont écrit leurs mémoires, et je m'appuie comme d'autres historiens beaucoup sur ces mémoires, ces soldats qui ont écrit leurs mémoires font revivre cette campagne, montrent les atrocités, les difficultés, mais en même temps, comme ils sont rentrés, montrent que ces épreuves pouvaient être surmontées. De ce point de vue, la campagne de Russie, c'est aussi une épreuve qui a été surmontée, une épreuve extrême qui démontre le courage de ces soldats. Et c'est sans doute ce qui fascine, c'est-à-dire que ces hommes aient pu affronter de telles conditions climatiques et aient pu s'en sortir pour la moitié d'entre eux, disons. Et le mythe naît aussi du fait que toute la propagande officielle, Napoléon s'y est beaucoup employé, vise à montrer que ce n'est pas une défaite. Et c'est vrai, sur le plan militaire, si l'on considère les batailles ne sont pas perdues par les troupes françaises. Mais si l'on considère le point de vue russe, c'est-à-dire la stratégie qui a consisté à attirer les Français, enfin la grande armée en Russie, pour faire en sorte qu'elle se décompose, à ce moment-là, les Russes ont évidemment été vainqueurs de cette campagne.
Et vous évoquez d'ailleurs les Russes. Pour eux aussi, la guerre qu'ils appellent patriotique de 1812 est ancrée dans leur mémoire nationale et même constitue l'identité nationale.
C'est un épisode essentiel dans la construction de l'identité russe, la guerre de 1812. Il suffit de voir d'ailleurs les commémorations qui ont été organisées autour du bicentenaire avec la présence du président Poutine sur place à Borodino au début du mois de septembre 2012, avec des manifestations très diverses, expositions, la création d'un musée de 1812 à Moscou. Récemment, les travaux à Borodino sur le musée du champ de bataille, il y a eu véritablement une mobilisation, des articles de presse, des émissions de télévision. Donc il y a un véritable engouement de la part des Russes pour cette campagne de 1812. Et ce qui peut paraître étonnant, c'est la fascination des Russes pour Napoléon. Napoléon n'est pas du tout détesté en Russie, au contraire, il y a une sorte d'admiration et une admiration pour finalement le chef de guerre qui a été vaincu par les Russes. Et de ce point de vue-là, l'affrontement des Russes et des Français en 1812 grandit les Russes qui savent aussi que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont joué un rôle très important sur le plan diplomatique en Europe.
Merci infiniment Jacques-Olivier Bouton de nous avoir fait revivre cette pénible retraite de Russie. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Napoléon et la campagne de Russie chez Armand Collin et Lettres de la campagne de Russie aux éditions Pierre de Taillac. Au revoir à tous et à toutes.